Alors, je vais appeler maintenant pour la deuxième table ronde Robert Nicodème, qui est le président de la commission formation et compétences médicales à l'Ordre des médecins, et Olivier Goéo-Brissonnière, qui est président de la Fédération des spécialités médicales et qui préside, qui dirige aussi le département de DPC de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, le DPC en France, la formation plus exacte, de manière plus large en France, effectivement, est l'objet de beaucoup d'attention et de beaucoup de réflexion. Et je crois que ça sera très intéressant d'entendre vos avis. Alors, Robert, que pouvez-vous nous dire sur ces perspectives d'avenir de la formation continue vue par l'Ordre des médecins ?
Merci beaucoup, Patrick. Donc, ça fait plaisir, comme tous les ans, que je viens à vos réunions, toujours très constructives. Alors, j'ai vu le... Je n'étais pas là ce matin, mais j'ai lu le livret, d'ailleurs un très bien fait, qui m'a permis de voir ce qui avait été dit ce matin. Et qu'est-ce qu'on peut dire dans les perspectives et comment l'Ordre des médecins voit le DPC ? La première chose que l'on peut dire avec force, c'est que l'Ordre des médecins souhaite que le DPC soit géré par la profession. La première notion. Par toutes les composantes de la profession. Qu'elle soit libérale, qu'elle soit hospitalière, salariée, quelle que soit la spécialité, généraliste, cardiologue, les 44 spécialités telles qu'elles y sont. Donc ça, c'est la première notion. Et au passage, une notion que nous avons à l'ordre, même si la gestion n'est pas identique, pour nous, pas l'université, mais les UFR de médecine font partie de la profession, parce que le médecin est formé à l'université, à la faculté, pardon, dans les facultés de médecine. On a d'ailleurs regardé le nom de doyen pour les directeurs d'UFR. Et c'est la formation, c'est l'UFR qui va délivrer le diplôme et qui, en France, je le rappelle, donne l'autonomie au médecin quand il a son diplôme, quand il a son DES. Donc ça, c'est cette notion gérée par la profession. La deuxième notion, c'est que il y a des organismes qui s'occupent du DPC, mais ce sont des organismes d'État. L'agence, l'ANDPC, c'est très bien, ça rend service, mais c'est l'État. La directrice est nommée par l'État, par le gouvernement, par le ministère. Donc, c'est nommé par le ministère. L'HAS rend de grands services. C'est une vraie structure, mais c'est l'État. Et pourquoi vous me dites quelle différence avait la profession ? Eh bien, la profession, c'est elle qui gère ses représentants. C'est elle qui gère sa gouvernance. Et l'Ordre des médecins représente par essence la profession pour les médecins, qui, certes, a une composante un peu d'État, puisque nous sommes en place par des textes officiels, des lois, une loi. Mais la gouvernance, elle est professionnelle. C'est-à-dire que les responsables sont des élus. Et si on n'est pas content de ces responsables, on peut en changer. Et ce n'est pas le ministère qui change les responsables, ce sont les médecins, par leur vote. Donc je veux dire, cette notion essentielle qui se développe, c'est que c'est la profession. Alors, tout n'est pas parfait, il y a du bien, il y a du mal, mais au moins, on ne peut pas reprocher à l'ordre de ne pas représenter la profession. Et donc, c'est cette notion. Et pour nous, ce doit être la profession qui gère le DPC. Mais l'ordre ne peut pas gérer le DPC lui-même. Il n'a aujourd'hui il n'en a pas la compétence, il a besoin de relais, il a besoin d'aide, il a besoin de structures qui lui permettent de mettre en place le dispositif et d'aller plus loin. Et ce dispositif, ce sont les CNP. Et les décrets viennent de sortir et l'ordre est très impliqué et s'impliquera de plus en plus dans la structuration des CNP, à leur évolution et à leur bonne et à leur travail, et aidera de la façon la plus forte qu'il pourra donner. Donc voilà où nous en sommes. Et par ailleurs, le DPC, on vous l'a dit ce matin, c'est l'actualisation des connaissances et des compétences, et ça se fait essentiellement par spécialité. Donc l'idée aussi, en perspective, c'est que, in fine, ce doit être la spécialité qui organise et qui gère son DPC. En sachant que dans le CNP, il y a l'université, il y a les syndicats, il y a les sociétés savantes, il y a toutes les composantes de la profession, mais en sachant que ce sont les composantes qui doivent travailler dans la dimension compétence. Le CNP ne doit pas travailler dans la dimension défense de la spécialité. Ça, c'est le rôle des syndicats. Le CNP doit absolument rester dans sa dimension compétence, c'est-à-dire il défend la qualité des soins, l'accompagnement des médecins dans sa spécialité. Voilà. Ça, c'est la notion des CNP. Mais les CNP ne vont pas forcément tous travailler tout seuls. Il y en aura qui auront besoin de se regrouper. La transversalité, elle est nécessaire. Et là, il y a des fédérations qui sont tout à fait possibles, qui peuvent se retrouver, et des fédérations qui se retrouvent autour des... Oui, oui.
Elle existe, N-E-2-L-E.
Oui, je peux continuer. Donc, il y a... Mais bien sûr. Donc, il y a des fédérations qui peuvent exister, et le texte le permet d'ailleurs, le texte sur les CNP permet ces fédérations qui pourront se retrouver sur des thèmes qui sont transversaux à plusieurs spécialités et qui correspondent finalement à des formations universitaires type FST, addictologie ou par exemple médecine du sport. Il faudra qu'il y ait des fédérations d'addictologie, de médecine du sport, des choses comme ça, qui regrouperont un certain nombre de spécialités. C'est dans les textes. Et il y a aussi la Fédération des spécialités médicales qui regroupe les spécialités, sauf la médecine générale, à ma connaissance, pour l'instant, qui peut porter un certain nombre de projets et qui sont particulièrement intéressant. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du dynamisme au niveau de chaque spécialité, en particulier dans la dimension compétence du médecin, parce que la dimension compétence, c'est le DPC, mais la vraie compétence, in fine, c'est ce que l'on va retrouver dans le parcours professionnel du médecin, dans lequel il y aura le DPC, mais il y aura aussi son activité, qui est quand même quelque chose de fondamental. L'activité fait partie de la compétence et d'autres dimensions qui, elles, se retrouveront dans ce qu'on appellera plus tard et ce qu'on appellera la recertification périodique du médecin. Donc, si vous voulez, dans les perspectives du DPC, voilà dans quel contexte on voit le DPC. On le voit pour la profession, et alors là, il y a du travail pour tout le monde. C'est un chantier énorme. Il faut travailler ensemble. C'est à ce niveau-là que nous travaillons, que ce soit l'université. Et le rôle de l'université est essentiel parce que, au niveau de la pédagogie, de la formation, tous les médecins passent par l'université. En France, tous les médecins sont formés dans l'université, dans un schéma comparable. Il y a une culture médicale qui est vraie, qui n'est pas dans tous les pays, hein, où les, les universités ont des cultures parfois extrêmement différentes. Donc je crois que tout ça, il faut le garder. Et pour ne pas être long, pour la deuxième partie, si vous voulez, sur le DPC, du rôle de l'ordre dans les perspectives, ce que je voulais vous dire, c'est la première notion, c'est la confraternité. C'est-à-dire que l'ordre doit veiller à l'obligation de DPC. Vous savez, je ne rentre pas dans les textes, c'était au 1er janvier, la période triennale, 1er janvier 2020, il faudra que les médecins aient pu justifier de leur DPC si cela n'est pas prolongé et si les parcours de DPC, on a dû vous en parler ce matin, sont publiés dans chaque spécialité et applicables. Donc, l'ordre, qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? Mais l'ordre, il est là pour aider. S'il y a des médecins qui n'ont pas fait leur DPC, il n'est pas question tout de suite de les mettre en insuffisance professionnelle. C'est hors de question. C'est le rôle d'accompagnement. C'est le rôle de confraternité. Le médecin sera reçu par son conseil départemental et sera accompagné. On se renseignera pour savoir pourquoi il n'a pas fait son DPC. On pourra le remettre en contact avec les responsables de son CNEP. On pourra lui dire, vous ne l'avez pas fait, on va lui proposer un plan d'accompagnement pour l'aider et qu'il aille, qu'il soit dans les, entre guillemets, dans les clous comme tout le monde. Ça, c'est un rôle que j'espère et que nous allons mettre en place, et j'y tiens beaucoup, ce rôle d'accompagnement du médecin en rapport avec le CNEP. Dans l'ordre, déjà, vous voyez, les rapports, ils sont là. On aura besoin, il faut absolument, même si c'est dans l'avenir, pour travailler ensemble. Et c'est vrai qu'il y aura des médecins qui auront quelques difficultés et qu'il faudra aider. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que l'ordre aura à faire pour le DPC, c'est de vérifier l'accessibilité aux formations de DPC. Qu'il n'y ait pas dans un endroit, dans un territoire, dans un établissement, des médecins qui ont des difficultés à avoir accès aux formations de DPC pour des raisons professionnelles, des raisons d'organisation, d'éloignement avec les sites, qui ne peuvent pas faire ce qu'ils font. Et à ce niveau-là, il faudra qu'il y ait une aide. Et je crois que là, nous serons en première ligne pour travailler, bien sûr, éventuellement, et si elle le souhaite, avec la Fédération des spécialités médicales, pour que tous les médecins puissent avoir accès à ces formations. Et ça, nous y tenons. Et enfin, ce que l'on souhaite, et là, ça fait partie aussi de notre démarche pour le DPC, c'est de s'intégrer totalement dans le dispositif général. Et dans le dispositif général du DPC. Et ce que je voulais dire pour terminer, c'est que aujourd'hui, quand on voit le DPC, on voit l'ANDPC, l'Agence de développement professionnel continu. Ça nous paraît pas être une orientation satisfaisante pour le moment. L'ANDPC, c'est le DPC indemnisé. Alors c'est vrai que l'aide, c'est indemnisé. Mais les médecins, il y en a, si le parcours professionnel de la spécialité le permet, pourront faire leur DPC, pourront valider leur DPC sans faire de DPC indemnisé. Ce qui compte, c'est la qualité du DPC qui sera fait. C'est la formation, c'est ça. On prend un médecin à un niveau sur un sujet donné et on l'amène à un niveau supérieur. Si cette formation est faite et si l'impact sur sa pratique ou sa compréhension est fait, que ce soit indemnisé ou pas, quel est le problème ? C'est pas ça qui est important. Bon, alors aujourd'hui, c'est vrai que le financement, il vient de la NDPC parce que les questions d'indépendance financière qui se posent pour pas qu'il n'y ait pas d'impact sur les pratiques fait qu'on est au niveau de l'agence, mais je crois que le dispositif général, et ça c'est à la profession de le mettre ensemble, et si vous retenez une chose de mon intervention, c'est de dire l'ordre souhaite que le DPC soit géré par la profession avec d'autres partenaires, mais bien sûr avec l'État, avec l'agence, avec l'HAS, mais que les décideurs, que la gouvernance soit une gouvernance médicale.
Merci Robert pour cet avis et cette présentation de l'ordre dans le cadre de l'avenir de la formation et notamment dans le cadre du DPC. Je crois qu'on peut retenir quand même de votre intervention le rôle central, crucial de la profession, l'objectif qui n'est pas seulement la connaissance, mais qui est aussi les compétences, et puis aussi le caractère finalement préventif de l'ordre qui par la confraternité justement, va essayer de prévenir les situations d'insuffisance professionnelle. Alors je crois que peut-être avant de commencer la discussion, je vais donner la parole à Olivier Goéo-Brissonnière, parce que je pense que effectivement le point de vue de la Fédération des spécialités médicales va être très intéressant à entendre aussi. C'est vrai qu'on a longtemps vu Olivier et les composantes de la Fédération des spécialités médicales porter ce dossier. Et c'est vrai que la parution du décret sur les CNP est un grand événement. Et je pense que ce décret aura pour l'ordre, pour l'université et pour la Fédération des spécialités médicales une importance capitale. Et je vais donc lui passer la parole.
Merci beaucoup, oui. Juste un point d'histoire, parce que c'est toujours intéressant l'histoire. Les choses se font sur des années et le mot Conseil national professionnel ou CNP que tout le monde emploie maintenant, c'est quelque chose qu'à 42 ou 43 personnes, nous avons inventé il y a maintenant 7 ans. Il a fallu après combattre pour que ce soit reconnu, mais c'est une assemblée générale de ce qui s'appelait déjà la Fédération des spécialités médicales, avec des représentants plutôt des sociétés savantes, que nous avons décidé ça. Donc c'est important. La victoire, on l'a eue maintenant, on l'a eue par étapes. On a eu le DPC, qui est apparu. On a eu, après, l'évolution vers le parcours de DPC. Et puis petit à petit, on a vu évoluer ces missions des CNP réunies au sein de la Fédération des spécialités médicales. À ce jour, il n'y a pas besoin d'aller susciter des fédérations. Il y a une fédération des spécialités médicales, c'est mon rôle de le dire, mais l'année dernière, les 44 spécialités ont réglé leurs cotisations à la Fédération des spécialités médicales. Alors, je vais revenir. Pardon ? Non, mais les généralistes ne sont pas chez nous, ils sont un CNP, à ce jour, qui s'appelle le Collège de la médecine générale. Ça fait partie du panorama. Et d'ailleurs, l'État est conventionné avec la Fédération des spécialités médicales, l'État est conventionné avec les généralistes, et dans la convention des généralistes, comme dans la nôtre, il y a un codicille qui n'a pas réussi à ce jour, qui est que l'État souhaite qu'à terme, le Collège de la médecine générale rejoigne la Fédération des spécialités médicales, ce qui, moi, je ne serais peut-être plus en charge, m'aurait comblé. Alors, je reviens... comme le dit Robert, en tout cas la fédération en a été, il a mis beaucoup de temps à accoucher parce qu'il y avait les uns, les autres qui voulaient pas. Nous avons eu un décret le 9 janvier 2019 qui a reconnu le rôle à la fois des conseils nationaux de spécialité pour les médecins, mais de profession pour les autres professions de santé, et qui a reconnu l'existence, et tous ne voulaient pas ça, deux structures fédératives à côté, qui sont notamment chargées de coordonner, c'est écrit dans le décret, les activités, les réflexions des spécialités médicales, d'apporter du soutien à certaines spécialités médicales, et par exemple la biologie médicale se réunit chez nous, la dermatologie a son siège à la FSM, c'est plus facile, ainsi de suite. Mais derrière, il y a des missions qui ne sont pas que le DPC, il y a une représentation de la profession aussi, sur tout ce qui est la désignation d'experts, de tout ce qui est la désignation de représentants d'une spécialité pour les sujets de la compétence, de la qualité, de l'expertise par l'État et par les autres structures. C'est écrit. Alors, la formation continue à travers ça. Bien sûr que c'est au cœur, ça a été une motivation. Et je reprends le mot de formation continue et d'évolution et de maintien des compétences. Et en fait, quand on regarde bien, il y a des... C'est difficile de bien comprendre les termes et de les suivre. Il y a le DPC à la française, le développement professionnel continu, qui regroupe des actions indemnisées, et c'est très bien, via la NDPC, ou pour les hospitaliers, via l'Agence nationale de formation, l'Association nationale de formation hospitalière. Bon, ça c'est une chose. Mais derrière, la chose est en train d'évoluer et a évolué, et ça devient le parcours professionnel de DPC. Et dans le décret en Conseil d'État qui était avant ce décret sur les missions des CNP, il est écrit que les conseils nationaux professionnels de spécialité doivent, alors c'est ce qu'on va faire, mais doivent définir le parcours professionnel de DPC qui lui aussi vaut DPC. Il remplace les deux actions de DPC. Et ce parcours professionnel, il est écrit dans le même décret que, à la demande du praticien, le CNP remet une attestation au praticien qu'il a rempli son brevet. Bon, ça, c'était la deuxième étape. Et la troisième étape, et j'en suis fort heureux, c'est que nous, ça a été voté il y a 3 jours, la nuit, nous évoluons pour les étudiants de troisième cycle qui finissent en 2022, ils vont devenir certifiés lorsqu'ils auront leur DES, et surtout est instituée la recertification obligatoire pour ces praticiens. Alors, ça va être réglé par ordonnance, ça va être discuté avec l'Ordre, la FSM, les syndicats de libéraux, d'hospitaliers, mais est introduite, peut-être pour les pharmaciens si c'est maintenu, mais est introduite une recertification des médecins. Et cette recertification, nous avons travaillé, l'Ordre, la FSM, le Collège de la médecine générale, la HAS, à produire un rapport. Cette recertification, ce ne sera plus, alors on est en France, on évolue, ce ne sera plus les deux actions de DPC, ce ne sera plus, même, ce sera le parcours professionnel tout court, défini par la spécialité. Et c'est ça que ça va être, c'est ce sur quoi nous commençons à travailler, et on revient à une boucle assez vertueuse. Il y aura la formation continue traditionnelle à laquelle on est habitué. Il y aura une chose qui figure dans le décret sur les CNP, qui est la mise en place de registres professionnels, de pratiques professionnelles. Et nous avons créé une plateforme sur laquelle nous allons bientôt avoir 12 registres de spécialités. Il y a celui des chirurgiens cardiaques, celui des chirurgiens thoraciques, bientôt celui de ma spécialité, celui des urologues. Tout ceci vient petit à petit, et ces registres, dans la recertification, interviendront aussi. Donc, tout ça est en train d'évoluer, et pour ne pas en dire plus, comme Robert, je partage tout à fait, c'est à la profession d'avoir totalement ça en main, et pour moi, la profession, vous la représentez linéaire, vous la représentez circulaire ou triangulaire, si on aime les triangles équilatéraux, et vous, c'est quoi la profession? Alors, je travaille dans une UFR, mais c'est l'université qui nous forme au départ, mais qui reste toujours compétente pour produire de la formation. C'est l'ordre, c'est l'ordre qui est très important, qui inscrit les gens qui viennent d'être certifiés par leur diplôme, qui veillent à la déontologie, qui veillent à la qualité de la compétence, qui veillent à un nombre très important de choses, qui veillent, qui est un gatekeeper. Et puis, il y a à l'autre côté, vous avez la FSM avec ses CNP ou le Collège de la médecine générale. C'est pour l'instant que je le vois comme ça. Alors, juste un petit point, j'ai entendu parler d'addictologie, j'ai entendu parler de choses comme ça. La médecine du sport, l'addictologie, et je pourrais prendre la thérapie cellulaire et transfusion, ce sont, alors par le décret qui vient d'être publié, ce sont des structures qui ne correspondent pas. Alors, la médecine évolue aussi, hein. Des choses disparaissent, des choses apparaissent. Ce sont des structures qu'il nous est dans le décret. Il est mis que, la structure, une, mais nous c'est la structure fédérative, peut être amenée à coordonner l'activité de ces sur, entre guillemets, spécialités ou de ces exercices émergents, et la, la convention pour 2019 pardon, de la FSM spécifie que ces gens-là sont représentés par la FSM. Voilà ce qui. C'est pas du tout contradictoire avec ce que disait Robert. Les choses travaillent ensemble. Ah ben, tu n'as pas l'air là. Mais c'est comme ça. La réalité est là aujourd'hui. Les gens qui au début étaient renaclés à la notion de recertification et qui d'ailleurs pour la plupart ont changé. Les gens qui voulaient lutter disaient on ne peut pas recertifier des gens qui ne sont pas certifiés. Et donc ce qui a évolué avec un garçon que j'adore qui est Lionel Collès, qu'on a évolué là-dessus, c'est qu'on a dit on va, qui a présidé une université, qui est un collègue mais qui est maintenant au Conseil d'État, il faut que les jeunes diplômés soient certifiés par leur diplôme, c'est ce que vont prévoir les ordonnances. C'est-à-dire que si un DES fait que l'on est certifié. Et pour les anciens médecins, les médecins qui ont exercé longtemps, la plupart vont in fine vouloir être recertifiés, parce que ça, c'est valorisant d'être recertifié, donc il va falloir arriver à l'écrire, mais c'est ce qui va rapidement se produire. Les textes sur la recertification doivent être publiés avec passage en Conseil d'État dans les 12 mois, c'est ce qui est dans la loi, suivant la signature de la loi qui est en cours de discussion. Et ça, c'est une grande étape. Et alors, il faut savoir lire. On m'a appris, ça c'est la directrice de la fédération pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui m'a dit, mais Olivier, il faut lire. Le projet de loi fait quoi, 20 pages, mais il faut lire les deux documents qui l'accompagnent dans son dépôt, c'est-à-dire l'étude d'impact, alors ça c'est un, mais qui est bien écrit, l'étude d'impact qui justifie le dépôt de la loi pour le gouvernement, et l'analyse du Conseil d'État, article par article, sur cette loi. Et alors j'ai regardé juste la table des matières, mais on n'a pas le temps de tout faire, et j'ai vu recertification. L'article fait ça. Il est long. Et recertification, il y avait une page qui faisait l'historique que je viens d'exposer, qui disait, en France, il y a la formation continue, qui est une chose très importante, qui disait, il y a eu, par la loi HPST, introduite en 2009, le DPC. Il y a une évolution, les parcours de DPC. Et la fin d'un paragraphe, moi, m'a étonné, parce qu'elle allait assez loin, c'était, à terme, la recertification des médecins visera à se substituer au développement parce qu'elle l'intègre au développement professionnel continu.
Merci Olivier pour ces précisions. Oui, je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'il n'y a pas un, mais deux diplômes. Il y a le doctorat d'État qui est confié aux facultés de médecine, et ce doctorat d'État donne le titre de docteur en médecine, et il y a un deuxième diplôme qui est le DES, le diplôme d'études supérieures, d'études de spécialité, qui va donner la qualification ou la certification initiale. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, si on part sur une certification qui serait périodiquement réévaluée, ben à ce moment-là, on peut effectivement reparler du terme de recertification. Alors c'est vrai que tu as refait la généalogie de ces CNP, et je crois que c'était important de le faire. C'est vrai aussi que le rôle de l'ordre a bien été aussi précisé par Robert, et notamment ce point crucial qui va être au terme du processus la gestion de, ou plus exactement la prévention de toutes les situations d'insuffisance professionnelle. Et c'est vrai que je pense que ce triumvirat dont on a souvent parlé, il est bien réel, à savoir l'ordre, la Fédération des spécialités médicales et son équipe, et le collège de, et puis tous les autres CNP, dont le collège de médecine générale, et puis bien sûr l'université. Alors l'université, ça tombe bien, vous la représentez, vous êtes là, donc je vais vous donner la parole pour des questions à soumettre à Robert et à Olivier. Oui.
sur le principe de recertification qui est admis maintenant, je pense avoir compris maintenant, est-ce bien le rôle des CNP, de chaque discipline, de décider de quand recertifier, comment recertifier, qui va le décider, et puis dans les faits, comment ça va se traduire, parce que
c'est, non. Quand c'est le législateur.
Non, mais ce qu'il...
C'est le législateur. D'accord. Pardon, le quand, c'est le législateur, et les députés d'ailleurs n'étaient pas très contents que les choses se passent par ordonnance. Et pourquoi ? Ça n'est pas fixé. Il va y avoir la discussion, une concertation sur la périodicité. Moi, je pense que, mais ça c'est personnel, que son parcours, on doit le rentrer au fil de l'eau. Quand je parlais de registre de pratique, c'est au fil de l'eau. Alors, la durée qui est évoquée, c'est 6 ans. Pourquoi c'est 6 ans ? Parce que quand on a fait toutes les auditions du comité de pilotage de la recertification, c'est que on se trouve, on est en France, il y a des juxtapositions de textes législatifs, de décrets, d'arrêtés, qui font que le DPC, si je ne m'abuse, c'est tous les 3 ans, et donc que les gens qui venaient disaient 3 ans c'est trop court, alors 9 ans c'est trop long. Donc les gens se sont, pour l'instant, mais ça changera peut-être, calés sur une double période de DPC. C'est
ça. Mais sur le programme, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va-t-on exiger.
Oui, le programme ça se fera par spécialité, ça c'est sûr. Alors attendez. Il y aura. Oui.
Non. Il y a un CNP par spécialité.
Un par spécialité, oui.
Qu'un orthopédiste il soit recertifié pour ce qu'il fait.
Non. Oui, non, ce que je veux dire. Non, mais Marie-Hélène, je crois que les choses sont bien cadrées. D'abord, en principe, il y aura une structure mise en place, alors qui sera le Haut Conseil à la recertification. Ça, je ne sais pas sûr. Enfin, c'est prévu dans le. C'est prévu. C'est ce qui est prévu. Ça se fera par spécialité avec. 6 items. Il y a 6 items. Je crois que vous l'aviez ce matin dans le. Quand j'ai lu, j'ai vu que ça y était. Je vous rappelle, il y a la formation dans le DPC, le parcours de DPC, pas forcément le DPC indemnisé, le parcours, l'activité, qui sera quand même une notion extrêmement importante. Je vous rappelle quand même qu'au niveau de l'ordre, un médecin qui a arrêté toute activité et toute formation pendant plus de 3 ans doit repasser. Doit faire la preuve qu'il s'est bien mis au courant, enfin, qu'il est up-to-date, voilà, qu'il est dans le coup. Ensuite, il y a les problèmes relationnels dans l'équipe et tout, il faut qu'il y ait des... Comme ça se fait dans notre pays, il y a le fait, je ne sais pas, il y a la santé du médecin, enfin, je veux dire, il y a des items qui sont parfaitement clairs. Mais... Ces items seront validés par la spécialité. Vous comprenez bien que quelqu'un qui est orthopédiste, on va lui demander des choses différentes par rapport au psychiatre. Donc ça c'est clair. Mais ce qui est sûr, c'est que le médecin sera recertifié sur l'activité qu'il fait. C'est-à-dire, pour donner un exemple, je suis orthopédiste, je ne fais que du membre supérieur, je serai recertifié sur mon activité. On ne vous demandera pas d'avoir fait des formations sur l'ange. Voilà, ça c'est parfaitement clair.
Ça, c'est la théorie. C'est la théorie parce que même au sein du comité de pilotage, son président ne pensait pas comme ça.
Ah mais ça nous l'avons demandé. Si vous voulez, ce qui compte pour le médecin, c'est son activité. Voilà. Alors.
Non, la recertification, c'est quelque chose d'un.
Oui, c'est indiqué.
La compétence de la personne pour le métier qu'il exerce et même pour le surmétier. En Angleterre, vous avez déjà la recertification et pour reprendre les orthopédistes, je ne suis pas orthopédiste, ils peuvent n'être recertifiés que pour la chirurgie de la main.
Ou de la main. Non, mais si vous voulez, il y aura l'accréditation des équipes, ça c'est une chose, ça c'est transversal. Ça c'est transversal, mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Vous aurez l'accréditation transversale des équipes, mais comme a dit Olivier, et ça on est tous d'accord, la recertification, c'est individuel dans sa spécialité. Ça, c'est très clair.
Alors, juste encore une précision, ce qui signifie que, donc par spécialité, ça paraissait évident, par petit topic, centre d'intérêt de son activité, c'est extrêmement réducteur. Et est-ce que vous ne... Alors moi, je suis interniste, par exemple, donc je me demande bien sur quoi on va pouvoir me recertifier.
Mais surtout, que, vous ferez tout.
Surtout, voilà. Mais par exemple, l'orthopédiste qui fait de l'épaule, on va le certifier sur le membre sup,
oui.
Qui signifie que quand il prendra une garde, il sera donc pas certifié pour un membre INF. Et s'il y a un problème...
Mais s'il ne prend pas de garde.
Non, attendez. Laissez-moi juste terminer. Donc s'il prend des gardes, puisque vous savez comme moi quand même que les structures ne font pas 200 personnes et que finalement tout le monde prend des gardes, ce qui signifie que, est-ce que vous ne craignez pas qu'in fine, ce soit une recertification extrêmement réductrice pour les praticiens et qu'à partir de là, l'autre problème, c'est la judiciarisation de tous nos actes. Non, mais c'est une question. Hein. C'est la judiciarisation de tous nos actes. Et si on est recertifié sur le membre sup, on ne peut plus toucher du tout le membre INF parce qu'on ne sera pas assuré, etc., etc. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va être finalement une recertification réductrice pour l'activité médicale des praticiens?
On a été peut-être, c'est peut-être allé un peu trop loin. C'est des discussions qui ont eu lieu et le débat était entre quoi? Le débat était entre quoi, par exemple? Je vais le schématiser. Entre, je suis obstétricien, je reste gynécologue obstétricien compétent pour tout. Or, ça n'est pas vrai. Je veux dire, le président de notre comité pilotage, qui est un ami, lui-même disait, moi, pendant 15 ans, je ne faisais plus d'accouchement. Je faisais autre chose. Mais je reste certifié comme gynécologue obstétricien. Et les patients sont associés à la réflexion et seront dans le haut comité. Les patients, mais même nous patients, même un interniste va dire, tiens, je dois aller me faire opérer d'une réintervention sur mon genou. On va plutôt aller... dans une équipe ou chez des gens qui se sont un peu spécialisés sur le genou. Derrière tout ça, il y a une grande réforme qui est en cours, qui n'apparaît pas, qui ne touche pas la médecine interne comme ça, mais qui va un tout petit peu la toucher quand même, qui est celle des autorisations d'activité. Derrière l'article sur la recertification dans la loi, les gens n'ont pas vu, il y a un article qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance sur les autorisations d'activité. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que deux activités de médecine concernées par des autorisations dans les établissements, la neurochirurgie et la chirurgie cardiaque. Ceci est en train de changer puisque, en tant que fédération, je me retrouve dans il y a un groupe qui est en train de réfléchir à la réforme qui va sortir dans l'année sur les autorisations d'activité de chirurgie. Toi aussi, tu en fais partie. Et c'est quoi? On en est à dire, il y a les 12 spécialités chirurgicales, et on en est à dire qu'on va classer les établissements, toujours les établissements seront autorisés, mais qu'on ne sera pas forcément, parce qu'on est CHU, de niveau 3 pour toutes les spécialités chirurgicales. Qu'une clinique ou qu'un hôpital général pourra être de niveau 3 en ophtalmologie et de niveau de base en chirurgie viscérale et ainsi de suite. Et derrière tout ça va un peu dans le même sens. Je suis désolé.
Les universitaires seront quand même... C'était aussi fait pour les universitaires qui ont des activités souvent beaucoup plus restreintes. Vous avez, moi, je sais pas, mais vous avez des spécialités, des services hospitaliers où je sais pas moi, rhumato ne va faire que de la pathologie inflammatoire, il s'occupe pas de tout le reste. Donc il sera recertifié sur sa pathologie inflammatoire, sur ce qu'il fait tous les jours. Voyez. Mais vous avez raison. C'est une vraie question, hein, quand même. C'est une vraie question que vous posez. Oui, je suis d'accord. Il faudra qu'on en parle, oui. Non, vous avez... Si vous voulez, le principe... Non, mais... Non, mais c'est...
pas prévu de recertifier les gens pour les Valsulariques.
Oui.
Non.
Oui.
Il y a dû avoir
oui, non, mais si vous...
les gens vont devoir saisir
voilà.
L'activité qu'ils font.
Qu'ils font, voilà. On leur demandera leur activité. Mais après, ça n'ira pas plus loin, parce que ce qui définit réglementairement le champ d'activité de la spécialité, c'est le DES. Aujourd'hui, les seuls arrêtés que l'on a, les seuls textes publiés par arrêté, c'est le DES. Donc, c'est la formation initiale. Au début, c'est ça qui donne le champ d'activité de la spécialité. Mais après, au fur et à mesure de la progression dans l'activité professionnelle, bien, le médecin a le droit de faire un petit peu ce qui lui plaît le plus, quoi. Voilà.
Robert, oui, je voulais rajouter deux choses. Enfin, moi, il me semble, dans ce que j'ai compris de la recertification, que la recertification, ce n'est pas un diplôme spécifique d'une surspécialité qu'on va repasser, c'est de vérifier qu'on est toujours bon conducteur. Donc, ce n'est pas le permis de conduire qu'on repasse, c'est simplement quelque chose pour mettre à jour un peu les connaissances.
On ne brûle pas les feux rouges.
Voilà. Sur un autre plan, je suis président du CNP d'ORL, donc je suis ravi de constater votre enthousiasme à tous les deux sur ce qui va se passer dans l'évolution du DPC et de la recertification. Mais quand tu dis que la recertification est obligatoire, enfin, le développement professionnel continu est obligatoire et qu'il faudra tous être dans les clous au 1er janvier 2020, il n'y a pas d'argent. Il n'y a ni d'argent pour la recertification, ni pour le DPC. Je pense que c'est un détail, mais comment est-ce qu'on va faire cette année avec l'afflux de médecins qu'on va avoir dans les spécialités, et CNP, nous, on va être en accusation. On va nous dire, vous favorisez quelque chose dont il n'y a pas le tiers de financement, puisqu'officiellement, je crois que le DPC peut financer 30% des médecins.
Mais comme c'est nous qui avons, l'État nous a donné, à l'ordre le devoir, puisque c'est un texte, de vérifier que l'obligation est validée, nous a donné, il faut qu'on travaille ensemble pour voir comment on peut aménager cette obligation au 1er janvier 2022. Ça fait partie des travaux que l'on a à faire ensemble.
C'est immédiat. Hein.
Juste une blague, une boutade par rapport à ce que tu dis. J'ai deux fils, dont un est un jeune avocat. En France, la formation continue des avocats est obligatoire. Il gagne pas, il n'est pas bénéficiaire, mon fils. La formation continue des avocats est obligatoire et elle est à leur charge. En France, la formation continue des architectes est obligatoire, elle est à leur charge. Toutes celles des professions libérales est à leur charge. Donc,
oui,
c'est un vrai sujet.
Dans le cadre des accords conventionnels négociés
avec
la caisse
d'assurance maladie. Autre chose.
Donc là, on revient en 1945 avec la création de la Sécu, qu'on traîne toujours avec le poids des centrales syndicales sur la formation.
Ce qu'il faut savoir, une des grandes avancées du DPC, la loi de 2009, c'était sur le développement professionnel continu, il y avait dans les objectifs la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Ça, c'était le ver qui était dans le fruit. C'est-à-dire, il y avait deux objectifs, la formation et la maîtrise médicalisée des dépenses. Ça n'a jamais marché. Pour dire que l'ordre, nous, on a eu une mission IGAS qui est en 2014, qui est venu à l'ordre pour nous dire où en était la FMEC, à l'époque le DPC conventionnel, puisque tout était dans cette dimension. Et suite à la mission IGAS, c'est en 2016, où la définition du DPC a été modifiée et où ça a été actualisation des connaissances et des compétences dans la spécialité. Ça a été à ce niveau-là, vous voyez.
C'est en marche, ça tourne un peu en rond quand même.
Nécessiter beaucoup de moyens parce qu'il y a un grand nombre de médecins en France.
Le problème actuel, c'est pas la volonté professionnelle, c'est pas le manque de compétences. Nos sociétés savantes en médecine, c'est notre fierté. On a des sociétés savantes dans les spécialités, c'est notre fierté, il faut le savoir. C'est quelque chose qui marche bien, avec des gens qui travaillent pour rien. Mais chaque fois qu'on parle de financement qu'on a affaire au pouvoir public, on a de gros problèmes. On va en avoir avec les CNP. Alors, il y a deux solutions. Ou c'est largement mutualisé, c'est-à-dire c'est les finances de l'État qui paye, mais il le prend dans quelque part, ou c'est la profession qui le paye, comme dans les autres pays. Ça, c'est la vraie discussion, et c'est le vrai sujet. Mais si c'est la profession qui le gère, soit la profession dit non, nous on préfère que ce soit mutualisé par l'État, et on fait, voilà, c'est comme les URPS, c'est l'URSSAF qui récupère, ou un autre comme ça, bon. Au passage, quand même, pour les libéraux, l'URPS, personne n'en a bronché. Et ils payent leurs cotisations, tous les libéraux, à l'URSSAF, et ça marche. Hein. Non, mais ça ne sert à rien, en plus. Voilà. Ça...
Ah, nous sommes d'accord. D'ailleurs quand on a commencé à parler, c'est intéressant de discuter de tout ça, quand on a commencé à parler du financement des CNP et de la FSM, d'ailleurs, ça va avec. La FSM, c'est... Il y a un financement propre de l'État, mais des financements des CNP. Diverses solutions ont été envisagées. On montait au créneau sans arrêt. Alors, notamment, il y avait à ce moment-là une mission IGAS sur les URPS. Et j'ai quand même un des présidents ou vice-présidents des URPS au national qui est venu me dire « Il faut combien ?» Alors, « Il faut combien pour les CNP et la FSM ?» Je ne savais pas répondre. Je vous jure que la phrase est vraie. J'ai dû 5 millions d'euros et ce président du RPS m'a répondu c'est peanuts. Pour dire qu'il y a de l'argent dans certains endroits. C'est une blague, mais ça a été prononcé devant moi. Ça rejoint ce que vient de dire Robert. Alors ce qui est envisagé, ce qui est déjà certain, c'est que comme les CNP, comme on a obtenu notre décret sur les CNP et sur la fédération, on a obtenu le principe du financement et le principe d'un financement de base pour les conseils nationaux professionnels. Alors, on sait que pour 2019, par exemple, c'est-à-dire l'année en cours, comme ils n'avaient rien prévu avant et qu'il faut toujours prévoir 6 mois avant pour que ce soit dans le projet de loi de finances, pour l'année qui est là, par exemple, la structure que je représente, et il y a deux autres membres du bureau dans la salle, nous serons financé par le ministère pour notre base. Pour les CNP qui ne sont pas que ceux de médecine. Il y a un CNP d'infirmiers, il y a quand même 1 million d'emplois là. 600 000, bah oui, c'est beaucoup, hein, 600 000. Il y a, mais les autres, enfin, les autres que les médecins représentent le million. Voilà, pour tout dire à peu près. Donc, il y a 56 CNP, l'État met 3 millions d'euros pour cette année. Alors, ce ne sera pas... Les psychiatres n'auront pas plus parce qu'ils sont 12 700 et nous moins parce qu'on est 500. Il va y avoir un socle commun et il y aura après un versement qui sera abondé selon les missions qu'auront remplies les CNP en 2018, aller aux commissions de la FSM, aller aux commissions de la DGOS, avoir rendu des expertises pour des PHRC, etc. Ils ont trouvé un moyen intermédiaire pour 2019 et pour à partir de 2020... Il y aura un financement socle des CNP qui sera introduit ou dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou dans le projet de loi de finances tout court s'il n'y en a plus qu'un. Voilà ce qui nous a été dit.
Le financement aurait pu être fait, on l'avait proposé par l'ordre, mais ça n'a pas... Non mais il n'y a pas eu, semble-t-il, il n'y a pas eu d'adhésion de la profession. Donc, si on veut que ce soit professionnel et qu'il n'y a pas d'adhésion, tant pis, on ne le fait pas. Mais les médecins ne se rendent pas compte qu'à l'ordre, ils ont une structure professionnelle garantie par l'État et qu'ils gèrent, puisque il y a des élus professionnels dedans. Donc, non, mais attends, je parle de l'ordre. Non, mais bien sûr que non. Le CNP, il faut qu'il soit indépendant, et ça, on l'a toujours... Mais attends. On sait ce que c'est. Je suis désolé d'être obligé de me justifier, mais enfin, quand même. Non, mais quand même. On sait gérer des structures vraiment de compétences qui sont tout à fait indépendantes. Nous avons des commissions de qualification qui siègent... Attends. Qui siègent auprès de l'ordre, mais on les a... Elles sont tout à fait indépendantes et elles font... Elles sont tout à fait... Et elles ont leurs décisions propres. Oui, mais attends. Arrête là, c'est ridicule. Attends, bon. Alors, non, ce que je veux dire, on est sur le financement. On est sur le financement. Le problème, moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas pu aller dans ce sens parce qu'on aurait pu avoir un vrai financement professionnel, même si après la répartition aurait été faite certainement, c'est l'État quand même qui exige la cotisation, la répartition aurait été faite avec les pouvoirs publics, mais au moins on aurait géré une partie de cette distribution qui aurait été faite. Après, le CNP est tout à fait indépendant. Une fois qu'il a ses sous, il se débrouille tout seul et il sait le faire. Voilà. Mais c'est ce qu'on avait demandé. Mais voilà. Non, puis même chez les médecins, il n'y a pas eu d'adhésion.
Moi, j'en avais une.
C'est dommage. Voilà, c'est comme ça.
Nous avions adhéré, nous.
Bien.
Non, mais vous voyez que c'est compliqué.
Mais ça peut évoluer.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pardon ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Les temps changent.
Non. Bien, mais il me reste à remercier Robert Nicodème et Olivier Gouéo-Brissonnière d'avoir bien voulu se livrer à cet exercice toujours difficile de la confrontation d'opinions avec des textes qui évoluent. Je crois qu'on peut les applaudir. Bien. Eh bien, nous arrivons au terme de cette journée. Il me reste à vous présenter les excuses d'Isabelle Richard, notre conseillère au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui, malheureusement, du fait d'un agenda extrêmement contraint ces jours-ci, n'a pas pu se joindre à nous pour venir nous donner quelques notions qui auraient pu éventuellement nous éclairer sur certains points. Enfin, en tout cas, nous l'excusons bien volontiers. Et je vous remercie d'être tous venus, d'être tous fidèles. Je sais qu'il y a des fidèles à DPCSU. Et je vous donne rendez-vous à nos rencontres d'automne qui auront lieu, comme à l'habitude, en région. On vous précisera le lieu et la date très précisément. Merci beaucoup, merci de votre fidélité et bon retour.